Alors, la deuxième partie de cette journée d'études va être consacrée à une série d'interventions autour des films d'Éric Duvivier. On va commencer avec Monsieur Jean-François Reynac, donc qui vient du CERIMES, anciennement SFRS, pour nous parler de la production et la diffusion des films d'Éric Duvivier, fonctionnement et action du SFRS. Voilà, à vous.
Alors, l'intitulé « Production des films d'Éric Duvivier », on n'a jamais produit de films d'Éric Duvivier, puisque vous avez bien compris ce matin, il était son propre producteur. Bon, par contre, le SFRS, parce que je vais parler en tant que membre du SFRS, on était un diffuseur, disons. Mais avant, je voudrais revenir sur une anecdote un peu personnelle. Comment j'ai découvert Éric Duvivier? Eh bien, j'ai découvert vos films à la Mutualité. J'avais 20 ans, j'imagine, c'était en 64, 63, 64, 65. Donc j'étais en pleine période cinéphilique intense, c'est-à-dire cinémathèque matin, midi et soir. Et j'ai dû avoir l'information que des films étaient projetés à la Mutualité. J'y ai été. C'était effectivement plein. Et j'ai vu Balèze sur un thème paraphrénique, qui m'a vraiment complètement renversé. Alors ce film-là n'est pas numérisé, hein, il n'y a pas de copie. L'original est à Nancy. Il faudrait bien qu'on le revoie un jour. Et puis, il devait y avoir avec Concerto mécanique pour la folie. Je ne sais plus. C'était ma première rencontre avec Éric Duvivier. La deuxième, c'était, on en a parlé un petit peu ce matin, c'était au cinéma Le Seine, puisque Éric Duvivier avait un cinéma qui s'appelait Le Seine, qui était dans le quartier Maubert Mutualité. Et il passait ses films. Donc, j'ai vu le programme Hallucination. Et j'ai aussi, là c'est un peu une parenthèse, j'ai découvert les films de Marcel Hanoun que vous projetiez, notamment, je pense que c'est là que j'ai vu La Nuit Claire et Le Regard, je pense que vous aviez programmé ça aux scènes. Voilà. Bon, après, je suis rentré au SFRS, donc dans la période un peu plus donc professionnelle. Et le SFRS, alors vous racontez brièvement ce que c'est le SFRS. Je vous invite à aller sur Wikipédia, vous tapez CERIMES, il y a un historique qui est très bien fait avec les dates, les différents directeurs, enfin, pas la peine que je refasse toute la chronologie. Moi, je suis arrivé en 75, et une des missions du SFRS, enfin, la première mission du SFRS, c'était de diffuser des films. Parce qu'en 1954, on s'est aperçu que pour l'enseignement supérieur, il n'y avait rien, il y avait depuis toujours la cinémathèque de l'enseignement public qui diffusait dans les écoles primaires, mais pour l'université et le supérieur, il n'y avait rien. Donc l'idée, c'était en fait de recenser les films qui pouvaient aider à l'enseignement en enseignement supérieur. Et la première mission, c'était en fait de faire un catalogage et de récupérer des films en Europe, y compris aussi d'ailleurs aux États-Unis, et de faire un catalogue en achetant les droits, c'est-à-dire que le SFRS achetait des copies, et alors la notion est arrivée un peu plus tard. La notion des droits, c'était les droits attachés au support, c'est-à-dire qu'on achetait un support et on pouvait l'utiliser. On pouvait utiliser le film, et puis quand le support était hors d'usage, ben on achetait une autre copie. Voilà. Donc, petit à petit, la cinémathèque du SFRS s'est constituée, et puis très vite, je pense, dès les années 56-57, on s'est aperçu qu'il fallait non seulement diffuser, mais aussi produire. Donc le SFRS est devenu un organisme de production de films. On en a produit à peu près autant que vous, finalement, parce que moi j'en ai recensé à peu près 700. On a dû produire à peu près 700 films dans tous les domaines scientifiques. Ça fonctionnait de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y avait un conseil scientifique. Un conseil scientifique qui était représenté par les spécialistes dans toutes les grandes disciplines. Alors, j'ai amené le catalogue de 1984 et il y a la liste du conseil scientifique. Alors, il y a quelques noms qui peuvent vous dire quelque chose. Rémi Chauvin, en sociologie animale. Robert Brousse, en vulcanologie. Il y avait Maurice Françon, qui était un opticien, qui travaillait à l'optique, à Jussieu. La médecine était représentée par Lucien Léger, qui était un médecin. Alors, bon, qui a lancé une série d'émissions médicales, un petit peu comme vous. C'était des émissions médicales destinées à l'enseignement continu des médecins. Alors ça passait sur France 2, le dimanche matin, en même temps que la messe, je crois. Hein. Mais il y a eu énormément de films, des films pédagogiques pour les médecins. C'était Lucien Léger qui avait lancé ça. Voilà, il y avait aussi Robineau et Henri de Lumley en préhistoire. Donc ce conseil scientifique se réunissait en fait une fois par an, c'est-à-dire qu'il recevait les projets des chercheurs, des enseignants qui voulaient faire un film de recherche. Tous ces projets étaient donc regroupés au sein du SFRS. On envoyait à chaque représentant de la discipline, bon, il y avait un film d'archéologie, on l'envoyait à Delumley, il y avait un film de médecine, on l'envoyait à Lucien Léger. Ils avaient donc connaissance de tous ces projets et ils se réunissaient une fois par an et ils discutaient, etc. Et ils disaient, le verdict c'était, ce film il est absolument indispensable parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'existe pas d'équivalent. On connaît très bien l'équipe, ce sont des très bons chercheurs, ils travaillent très bien, c'est très intéressant. Ou alors, bon, ce film-là, c'est peut-être un peu moins intéressant parce qu'il y a déjà eu des choses sur le sujet. Ou alors, carrément, le film n'est pas intéressant, ce n'est pas une équipe sérieuse, il a été fait 10 fois. Donc les films étaient classés en A, B, C. Et les A, c'était vraiment les films qu'il fallait réaliser. Le conseil scientifique n'intervenait jamais sur les problèmes de production. C'est-à-dire qu'on ne tenait pas compte, il fallait aller tourner un film en Chine, si c'était intéressant, il disait « allez-y ». Donc c'était au SFRS, après, avec le budget qu'il avait, de monter la production. Mais le conseil scientifique n'avait pas à influencer, parce que c'était cher, parce que bon, voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait donc à peu près 700 films, ça fonctionnait comme ça, jusqu'en 1993, où il y a eu un certain nombre de péripéties. Et puis après, c'est devenu le Cérimès, la production... Alors, aussi, une chose importante, on tournait en pellicule. C'est-à-dire que tous les films étaient tournés en 16 mm ou en 35. Ce qui, pour la conservation, est évidemment très bien, puisque tous ces films sont conservés. Presque. Bon, presque. Il y en a quelques-uns qu'on a perdus, mais pas beaucoup. Ils sont conservés et ils sont donc déposés aux archives françaises du film à Bois d'Arcy. Donc la production est sauvegardée. Lorsqu'il y a eu le passage de la vidéo, on a continué à produire et à diffuser en vidéo. Et puis après, c'est la diffusion maintenant Internet. Alors beaucoup de films du SFRS ont été donc numérisés. Ils sont en ligne sur Canalu. Vous pouvez les retrouver par le mot-clé Cérimès. Je crois qu'il y a Cérimès est considéré comme un producteur et tous les films sont disponibles sur Canal. Enfin, tous les films numérisés sont disponibles sur le site de Canal. Et vous verrez, il y a une très grande diversité de sujets parce qu'on a fait essentiellement, enfin, on a fait aussi bien des films de physique que des films d'archéologie, que des films sur les enfants, sur les relations sociales entre les enfants. Quand je suis arrivé, moi, donc en 75, disons en 78, c'était vraiment la grande période de gloire du SFRS. On fonctionnait sous forme de prêt, c'est-à-dire que c'était des copies 16 mm qui étaient envoyées dans les établissements. Et en 78, nous avons fait 18 000 prêts dans l'année de copies de films. C'est-à-dire qu'à l'époque, le SFRS, c'était que 16 personnes. Évidemment, par rapport à la diffusion de la Cinémathèque centrale d'un enseignement, qui est évidemment un rayonnement beaucoup plus considérable, mais quand même 18 000 prêts pour une petite équipe, c'était vraiment pas mal. Et les films, j'ai recherché un peu les deux films qui ont été les plus demandés, pour lesquels on a tiré le plus de copies, ce qui voulait dire qu'il y avait une demande assez importante. Le grand best-seller, c'était « Structure de la cellule ». Je pense que tous les étudiants ont vu ce film. C'est un film qui était produit, pas par nous, mais qui était produit par l'École normale supérieure de Saint-Cloud, sous la direction de Jean Valérien. Et c'est un film, je pense, qu'on a diffusé pendant des années. Je sais qu'on a retiré 3 internégatifs parce que c'était usé. Enfin, ça marchait très bien. Et le deuxième best-seller... C'est un film d'Hubert Montagnier sur les enfants qui s'appelle « Le mécanisme de communication non-verbale chez les enfants ». Où là, il y avait en permanence à la Cinémathèque, il y avait 60 copies quoi, et qui tournaient comme ça. Voilà un petit peu l'histoire du SFRS. Alors, nous avions dans le catalogue du SFRS des films d'Éric Duvivier, mais pas des films médicaux. Ce n'étaient pas des films médicaux. Parce qu'il y a un aspect de votre production. Nous avions, j'ai retrouvé 3 titres. Biologie marine sur les côtes de Bretagne, qui est un film qu'il a tourné à Roscoff. Vous étiez un petit peu sur les terres de pain levé, d'abord. Hein. Et puis Océanographie méditerranéenne, donc vous étiez basculé de ce côté. Et un film sur le phytotron, c'est vous, hein. Le phytotron, c'est à Orsay, c'est un gros système qui permet de reconstituer les climats. C'est-à-dire qu'on peut faire un climat tropical, un climat tempéré, pour étudier la croissance des végétaux. Et puis le plus grand microscope électronique du monde, on avait dans le catalogue aussi. Mais les films médicaux n'étaient pas dans le catalogue du SFRS. Par contre, une des autres activités du SFRS, c'était de gérer la cinémathèque scientifique et médicale des affaires étrangères. Et là, nous avions des films d'Éric Duvivier dans les films médicaux. C'est-à-dire que les affaires étrangères donnaient de l'argent via le CNC pour faire des tirages de films. Il y avait une sélection. Il y avait une sélection de films et le ministère donnait de l'argent aux producteurs, c'est-à-dire à Éric Duvivier ou à nous ou à d'autres. Gaillard, par exemple, a bénéficié de tout ça, pour faire des tirages et des versions étrangères. C'est les affaires étrangères qui payaient les versions. Je veux dire que ça a été un budget assez considérable, mais c'était diffusé dans toutes les ambassades de France dans le monde. Je crois qu'à l'époque, il y en avait une centaine. Hein. Je crois que maintenant, il y a 160 ambassades, mais à l'époque, il y avait 130 ambassades. Et il y avait une diffusion considérable des films scientifiques et médicaux dans le monde entier grâce à cette cinémathèque des affaires étrangères. Et c'était un gros travail. Alors à l'époque, évidemment, c'était l'époque bénie des laboratoires de tirage de cinéma, il y en a certains d'ailleurs qui ne vivaient que par la manne des affaires étrangères, parce qu'ils avaient aussi parallèlement une diffusion culturelle, c'est-à-dire que les films de long métrage étaient diffusés à l'étranger avec des tirages en copie 16. Donc c'était un énorme marché. Et quand la vidéo est arrivée, évidemment, tous ces laboratoires ont fermé les uns après les autres. C'est pour ça que je disais ce matin que tous les négatifs et originaux de tous ces films sont regroupés actuellement à Auxerre en train de trier. Mais c'était une très grosse diffusion et donc on commandait les films d'Éric Duvivier dans son laboratoire qui s'appelait Film Labo. Et c'est vous qui faisiez les tirages et qui établissiez les versions étrangères de vos films. Voilà. Donc c'est un petit peu le... Ouais. Elles sont à Nancy.
Elles sont à Nancy.
Elles sont à Nancy.
Les sons.
Les sons optiques, ouais. Et les sons magnétiques, ça, je ne sais pas.
Il n'y a que les sons optiques.
Il n'y a que les sons optiques, oui.
Il n'y a pas les sons magnétiques.
Non, je ne crois pas. Non. Je crois pas. Puis de toute façon, les sons magnétiques, c'est ce qui se dégrade le plus. Mais il y a les sons optiques qui sont, ouais, on ne peut plus tirer de copie maintenant.
Je dis ça dans le cas où on voudrait relancer quelques versions étrangères. Parce que de ce côté-là, évidemment, tout s'est arrêté. Ouais. Pratiquement, la diffusion
oui.
gratuite par les ambassades. Point.
Oui.
Quand ça s'est arrêté, ce qui fait qu'une université américaine qui voudrait actuellement acheter un film aurait du mal à le trouver.
Ils auraient du mal. Bah, techniquement, c'est possible, parce qu'il suffit de récupérer le son optique voilà. et de le transférer sur un support voilà. bon, en numérique, etc. Et après, comme on a l'image, on peut faire une version étrangère. D'autant plus qu'en général, tous ces films, c'était surtout avec de la voix off.
Voilà.
Donc, il n'y avait pas trop de problèmes de synchro. Voilà. Ça arrive, hein, mais disons que ce n'était pas très, très compliqué.
Vous ne pas trop de problèmes de synchro.
Non, parce que c'était du commentaire. C'était du commentaire, donc une synchro plus, un peu approximative, c'était pas...
Ouais.
Mais logiquement, c'est possible. Mais bon, il faudrait avoir que quelqu'un demande, quoi, c'est ça. Voilà.
D'accord.
Bon, bah, sinon, qu'est-ce que je peux... Alors aussi, nous, on a eu une autre expérience avec vous, au moment du passage vidéo. Au moment à la vidéo, vous nous aviez confié... Alors ça, je ne m'en rappelle pas. C'était pas là, Dominique, je crois. Si, c'était des VHS, alors vous avez... Si, c'était des VHS. Non, c'était des VHS qui étaient diffusés sous forme... Ah oui, peut-être il y avait un BFU. Enfin, disons, c'était distribué. On les vendait ou on les prêtait, je ne m'en rappelle plus, mais en fait, on devait vous les acheter. Et vous aviez regroupé sur une même cassette des extraits de trois de vos films, par exemple. Il y a un truc en cardio, il y avait un truc en psychiatrie, il y avait un truc... C'était diffusé comme ça dans les années, je dirais, 80, par là. Ouais, voilà, bon. Donc c'était la dernière diffusion. Et puis après, bah, évidemment, il y a eu la rencontre avec Éric Duvivier lorsque... Alors, avant de passer, rectificatif historique, Thierry, avant de passer au CRI de Nancy, les films étaient à Lorquin. Lorquin, c'est un centre psychiatrique où a été créé le Centre audiovisuel de santé mentale, sous la direction d'Alain Bouvarel, pédopsychiatre, qui a fondé un festival qui s'appelle Cinepsy, qui avait lieu tous les ans. Puis là, il y a eu un problème de financement qui n'a pas eu lieu il y a 2 ans, mais qui a eu lieu cette année, en tout cas. Et il y avait du budget, il y avait un bureau à Paris qui faisait la diffusion des films, et un bureau à Lorquin. Et à Lorquin, Éric Duvivier a déposé tous ses originaux quand vous avez fermé votre laboratoire. Il y en a encore. Et quand l'hôpital, c'était un hôpital, quand l'hôpital a dit ben non, on ne peut plus financer les postes pour faire la gestion de ce centre de santé mentale, débrouillez-vous. Ils ont dit, je crois, à l'époque, ben, les films, vous les laissez, ça ne nous gêne pas. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu le transfert au CRI à Nancy. Et c'est là aussi, je pense, que vous nous avez approchés et vous nous avez demandé de gérer tout ce qui avait été transféré sur vidéo, c'est-à-dire Humatic et Beta, qu'on a été chercher dans votre cave et qui sont maintenant donc conservés au Cérimès à Vanves. Voilà un peu mon histoire avec Éric Duvivier. Voilà. Et encore tout à fait anecdotiquement, la semaine prochaine à Brest, je présente la charrette fantôme de votre oncle. En copie 35 restaurée. Ouais. Voilà.
Et pourquoi ça s'est retrouvé à Nancy, au Conservatoire régional de l'image? Parce que c'était près de Lorquin?
Oui,
ou...
oui,
juste pour ça.
C'est Lorquin.
Mais c'est qui? C'est Bouvarel qui les a envoyés là-bas ou qui... Oui,
absolument.
D'accord. Et vous avez été consulté ou vous informé? D'accord.
Il fallait trouver une solution à l'époque assez rapide parce que, en principe, on ne pouvait plus à Lorquin s'en occuper. Vous voyez. Ouais. En réalité, ils ont conservé deux ou trois.
Plutôt. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont encore dans leur catalogue, j'ai vu, ont quelques films, enfin ils ont Hystérie, Langage du corps, ils ont les névroses post-traumatiques, enfin ils en ont gardé un petit peu, qu'ils continuent à diffuser. Bon. Mais sinon, tout le fond est à Nancy.
Les vidéos qui sont chez nous. À Lorquin devraient être chez vous.
Ouais, mais on a des copies. On les a tous.
Vous avez tout en vidéo.
Oui, on les a tous. Ouais. Ouais. De ce qui a été transféré en vidéo, on a tout.
Vous avez tous.
Il y a un film que je voudrais bien restaurer, c'est La prison.
Ah, oui.
La prison, c'est un film qui a été tourné en milieu carcéral. Oui. Et c'est un scénario d'Alphonse Boudard.
Alors, ça fait partie de ce que vous pourriez faire à Nancy.
Ouais.
Il faudra le noter.
Mais j'ai été à Nancy, j'ai même vu dans les réserves, j'ai vu l'original. Ah bon. Il est à Nancy. Bon, maintenant, il faut des sous pour le transférer.
Ah, parce que...
Mais il est à Nancy, il est sauvé, ce film-là.
Parce que, comme pour le ballet...
Oui, le ballet, voilà, il est à Nancy aussi.
Voilà. Il y a 2-3 films comme ça, pas oubliés, mais...
Oui. Ben vous m'aviez fait une liste de films à transférer. Vous n'avez pas dit d'urgence, mais enfin, disons qu'ils mériteraient d'être transférés. Mais, bon. Mais ça, c'est une question de... C'est une question de sous. Hein.
Mais là, il faudrait en profiter pour le ballet et il faudrait ajouter donc la prison.
Oui, alors là, pour la journée de février, on va essayer de numériser la prison, comme ça, on pourra le projeter.
Voilà. Et le ballet pour un thème.
Le ballet, mais ça, c'est déjà en cours.
Ah bon, c'est vrai? Bon. Ah, voilà, bah, tout va bien.
Voilà.
Voilà.
Alors,
ça vous suffit.
Merci beaucoup, Jean-François. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle au sujet de cette intervention? Oui, allez, Alexandre.
Vous avez parlé de Cinémathèque des Affaires étrangères. Est-ce que c'est une cinémathèque virtuelle ou existante ?
Pas du tout. Ce n'est pas du tout une cinémathèque virtuelle. Les affaires étrangères, donc, notamment dans le domaine du film de fiction, donc, a acheté des copies. Donc, elle les envoyait évidemment dans les ambassades, mais il y avait un stock. Et alors, ce stock a dû plus ou moins bouger. Et ce stock, au moment du passage à la vidéo, il y a eu du dégraissage. Et c'est Anne-Catherine Louvet, c'est ça ? Voilà, qui m'appelle un jour. Oh, Saint-François, je sais que t'aimes bien les vieilles boîtes rouillées. Ils sont en train de tout foutre en l'air. Donc, j'ai pris la camionnette du SFRS. J'ai ramené ce que j'ai pu de copies de films, quoi. Voilà. Donc, ça encombre un peu le Sérimès, mais j'en amène beaucoup en Bretagne. Il y avait notamment un magazine qui était extraordinaire. Extraordinaire. Ça s'appelait Synthèse. C'était le magazine qui était produit par les Affaires étrangères. C'était un magazine scientifique, médical et industriel sur des sujets. J'ai retrouvé là-dedans des interviews de chercheurs débutants, dont Yves Coppens, bien avant Lucie, dans les années 70, où il traverse, il va dans son bureau, il raconte un peu ses recherches. C'était formidable. Je l'ai vendu très cher à Michel Drucker quand il est venu à Vivement Dimanche. J'ai retrouvé des interviews de Xavier Le Pichon. Xavier Le Pichon, c'est celui qui a fait la grande exploration du rift atlantique avec les capsules américaines. Donc, Xavier Le Pichon était à Brest. C'était un jeune chercheur à Brest. Donc, on a fait un portrait de Xavier Le Pichon. Il y a des choses extraordinaires dans cette collection. Et alors, les Synthèses, c'était un magazine qui paraissait 4 fois dans l'année, qui était diffusé dans 4 langues, français, espagnol, portugais et arabe, et qui était diffusé dans le monde entier. C'était la science, la médecine, la science et l'industrie française. C'était payé un peu par le CNPF, enfin, et il y a des documents tout à fait extraordinaires. Donc j'ai récupéré des copies. Bon, les originaux, logiquement, doivent faire partie du stock qui est à Auxerre, parce que c'était tiré au laboratoire GTC, donc ça n'a pas dû être perdu. Mais c'est une source d'archives sur l'histoire de la science récente, finalement, hein, dans les années 70. Vraiment très bien. C'est un magazine qui était très, très bien. Et c'était entièrement financé par les affaires étrangères.
Donc, à partir des années 70 ?
Un petit peu avant. Ouais, je crois que les premiers numéros, c'était 69, je crois. Voilà, et ça a duré 10 ans. Il y avait 4 numéros par an. Avec vraiment des choses étonnantes. Voilà. Mais c'était une cinémathèque qui existait vraiment. Il y avait des catalogues, tout. Hein.
Et un des catalogues spécialisés, c'était le catalogue audiovisuel santé.
Alors, ça, c'est autre chose. Le catalogue audiovisuel santé, c'était. Alors, je ne sais plus quel était le ministériel, peut-être le ministère de la Santé, j'en sais rien. Donc, ils étaient à Saint-Antoine, à l'hôpital Saint-Antoine, et il y avait. Donc une personne qui faisait ses fiches, dont on cherchait le nom avec Dominique qu'on n'a pas trouvé, et qui faisait un travail conjoint, tu as vu les fiches. Et tous les films médicaux étaient recensés avec une petite fiche, un peu comme tu as montré ce matin, avec le contenu, le réalisateur, le producteur, le niveau aussi de public auquel ça t'adressait, et l'adresse où on pouvait obtenir le film. Donc en général, c'était les labos. C'était les labos. Les grands fichiers qui. Voilà. Et c'était on pouvait obtenir auprès des laboratoires. Alors, évidemment, c'est sûr que maintenant, si vous allez essayer d'aller au laboratoire Specia, je vous souhaite bien du courage.
D'autres questions ?
Juste pour un de mes dadas. Jean Commandon, dans le SFRS, c'est quoi son.
Au moment de la création donc, du SFRS, il fallait recenser des films. Donc, recenser les films. Donc, Jean Commandon a déposé 17 films. 17 de ses films au SFRS. Il a déposé via l'Institut Pasteur. Hein. Donc il y a 17 films. D'ailleurs, Peggy avait sorti la liste lors de ta conférence sur Commandon. Donc on a toujours d'ailleurs, hein, enfin on a, c'est à Poitiers, mais on a 17 films de Commandon. Je sais que la série sur les amibes, notamment tous ces films sur les amibes, il y en a plusieurs, ça marchait très bien. C'était très demandé. Et les champignons prédateurs de nématodes, des choses comme ça. Voilà. Non, ça marchait très bien. On avait 17 films. Et c'était dans le premier catalogue du SFRS, Commandon avait.
Il a vraiment été président d'honneur ?
Non, je ne crois pas. C'est une légende. Ouais, c'est une légende, mais enfin, disons que. Bah, un des fondateurs du SFRS, bon, d'abord, il y a eu Longchambon qui était ministre de la Recherche, mais c'est un chercheur, c'était René-Guy Busnel, qui était un acousticien. qui avait créé un laboratoire d'acoustique à l'INRA et qui travaillait sur, évidemment, les sons, notamment les sons des animaux. Et il cherchait, en utilisant les sons, par exemple, protéger l'agriculture. Ça n'a jamais marché. Hein. Il essayait d'effrayer les corbeaux en enregistrant des signaux de détresse des corbeaux. Il était certes dans un champ. Au bout de 3 jours, les corbeaux, ils avaient compris, quoi. Mais il a travaillé là sur les corbeaux, il a travaillé sur les orthoptères. Alors, le premier film vraiment produit par le SFRS, c'est Le monde sonore des sauterelles. Donc, c'est un travail sur le son, sur les orthoptères. Il a travaillé sur les souris, il a travaillé. Et puis, comme il me dit, mon chef-d'œuvre, c'est le cochon. Il a fait un film qui s'appelle Recherche sur le comportement sexuel de la truie, qui a eu une énorme diffusion, mais on soupçonne quand même beaucoup de professeurs de projeter ça pour faire rire les élèves, ce qui est vrai qu'il y avait de quoi rire. Mais enfin, c'était un travail quand même d'un chercheur, on travaillait sur le comportement sexuel, où il y avait une part de son, le grognement du verrat, qui pouvait exciter la truie. Voilà, Recherche sur le comportement sexuel de la truie. Dont Archimède, la célèbre émission d'Arte, a fait un plagiat avec un commentaire humoristique. C'est Pierre-Oscar Lévy qui avait écrit ça. Et bon, ça n'a pas trop plu à Busnel, d'ailleurs. Mais enfin, bon, voilà.
D'autres questions?
Je pourrais en raconter des heures comme ça, mais bon, c'est...